Chapitre 5. La fin des vacances. À la rédaction du Nouvelliste, Scarlett avait imprimé tous les articles consacrés au meurtre de la chambre 622. Elle avait ainsi découvert que ce crime n'avait jamais été élucidé. Et dans la voiture qui nous ramenait à Verbier, elle n'eut qu'une idée en tête, me convaincre d'écrire un roman sur le sujet. « Un meurtre a eu lieu dans ce palace, l'écrivain. C'est quand même fou. On imagine déjà l'ambiance feutrée, tous les clients suspects, le flic qui interroge les témoins au coin du feu. Allons, Scarlett, que voulez-vous faire? Rouvrir l'enquête? Résoudre cette affaire alors que la police elle-même a échoué à le faire? Exactement. Vous êtes mieux qu'un policier, vous êtes écrivain. On va mener l'enquête ensemble et vous en ferez un roman. Je ne vais pas écrire un roman là-dessus, la prévins-je d'emblée. Allez, l'écrivain. Je suis certaine que Bernard aurait voulu que vous écriviez un roman sur ce fait divers. Non, mon prochain roman ne sera pas une histoire policière à la noix. Ne soyez pas grincheux, enfin. Il y a même un roman dans le roman. Comment nous rendons compte que le numéro de la chambre 622 a été modifié après qu'un meurtre y a été commis? N'êtes-vous pas curieux de comprendre pourquoi le concierge nous a menti hier soir? Pas plus que ça. S'il vous plaît. Et puis, je vous aiderai. Vous m'aiderez? Vous n'avez jamais écrit de livre. Je serai votre assistante. J'ai déjà une assistante, et croyez-moi, vous ne voulez pas lui ressembler. Alors désormais, vous avez deux assistantes. Je suis censé être en vacances et me reposer. Vous vous reposerez quand vous serez mort. De toute façon, je ne suis pas disponible. J'ai des engagements.
Ah bon? Lesquels?
Cet après-midi, par exemple, j'ai réservé un massage. À la suite de quoi j'irai au spa, me plonger dans un bain à remous et entrer dans un état de relaxation absolue. Vous avez bien raison, l'écrivain. Faites-vous du bien, prenez des forces. Plus vous êtes détendu, meilleur sera votre livre. Dites-moi simplement ce que je dois faire pour vous aider. Après avoir laissé planer un long silence, je finis par dire « Vous devez trouver les éléments qui nous permettront de remonter tout le fil de cette histoire. » Le visage de Scarlett s'illumina. « Ça veut dire que vous acceptez ?» Je souris. Bien sûr que j'acceptais. Ne serait-ce que pour passer un peu de temps avec elle. Cet après-midi-là, tandis que Scarlett était censée rassembler les matériaux de notre enquête, je profitais longuement des services de balnéothérapie de l'hôtel. De retour dans ma suite, je découvris que Scarlett avait pris possession de la pièce. Elle avait retapissé le mur avec tous les articles qu'elle avait trouvés concernant l'affaire. « Comment êtes-vous entré ici ?» lui demandai-je. J'ai demandé à la réception de m'ouvrir la porte. Et ils l'ont fait. J'ai dit que j'étais votre assistante. L'assistante du grand écrivain, vous imaginez bien. Ils ont frémi. Venez plutôt regarder ce que j'ai trouvé. Je m'assis sur l'un des fauteuils et elle pointa du doigt une feuille de papier sur laquelle elle avait inscrit « Banque Ebesner ». « Vous connaissez la Banque Ebesner à Genève ?» me demanda Scarlett. « Oui, évidemment. C'est l'une des plus importantes banques privées de Suisse. Ils sont installés dans la rue de la Coraterie. Est-ce que le nom de Macaire Ebesner vous dit quelque chose ?»«
Non, mais j'imagine qu'avec un nom pareil, il a un lien avec la banque. »
« Bravo, Sherlock Holmes !» Elle me tendit un article de la Tribune de Genève datant de 8 jours avant le meurtre et exhumé grâce à Internet. J'en lus le titre. « Macaire Ebesner sera nommé samedi président de la banque Ebesner. » « Macaire Ebesner était censé devenir président de la banque, » m'expliqua Scarlett. « Il devait succéder à son père, Abel Ebesner, décédé une année plus tôt. Sauf que, contrairement à ce que dit l'article, il faut toujours se méfier de la presse, sa nomination n'était pas acquise du tout. »
« Comment le savez-vous ? »
« Ça n'a pas été simple. Mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur le concierge d'hier soir. Il m'a expliqué qu'en cas de question de la part des clients, la direction donne pour consigne d'inventer cette histoire d'erreur de numérotation de chambre. Parce qu'un meurtre dans un hôtel, ça fait mauvais genre. J'ai demandé à parler au directeur, mais comme par hasard, il est absent ces jours-ci. Je crois qu'ils n'ont pas trop envie qu'on fouine. Enfin bref, le concierge était déjà employé au palace au moment du meurtre. Il a d'abord affirmé qu'il ne se souvenait plus de rien, mais quelques billets ont soigné son amnésie avec succès. Il m'a donc raconté qu'à l'époque, Macaire Ebesner avait un concurrent très sérieux, en la personne de Lev Levovitch, un autre banquier. Un type assez flamboyant, connu à l'hôtel, qui avait été le bras droit d'Abel Ebesner.
Le père de Macaire Ebesner, c'est ça?
Exactement, confirma Scarlett. Le concierge avait recueilli les confidences du directeur du palace de l'époque, Edmond Rose, qui était apparemment très proche de ce Lev Levovitch. Le week-end du meurtre, il y a eu une agitation inhabituelle au palace. « Attendez, Scarlett, l'interrompis-je, je ne vous suis pas. Quel est le lien entre le palace de Verbier et la banque ?»«
Le grand week-end. » »«
Le grand week-end ? Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Le grand week-end a été une tradition de la banque Ebesner pendant des décennies. Il s'agissait de la sortie annuelle de l'établissement. Chaque année, en décembre, tous les employés de la banque étaient invités à passer 2 jours à Verbier. Tout le monde était logé ici, au palace de Verbier. Les journées étaient laissées libres pour skier, se promener ou jouer au curling. Le samedi soir, un dîner de gala avait lieu dans la salle de bal du palace. C'était le moment de toutes les solennités pendant lesquelles on procédait aux grandes annonces officielles de la banque, telles que les promotions internes, passations de pouvoir ou départs en retraite.
Donc le week-end du meurtre était l'un de ces fameux grands week-ends de la banque.
Oui, et pas n'importe lequel. Regardez. Scarlett me montra un autre article tiré de la Tribune de Genève. Celui-ci était daté de presque une année avant le meurtre. Il était consacré aux obsèques d'Abel Ebesner au début du mois de janvier, célébré à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. On y voyait sur une photo 3 hommes décrits comme les membres du conseil de la banque. Jean-Bénédicte Hansen, Horace Hansen et Signor Tarnogol. Le conseil de la banque ? Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je en relevant que Scarlett avait noté ces mêmes mots sur un morceau de papier au mur, comme s'il s'agissait d'un élément important. Elle eut un petit sourire victorieux. Je me suis posé la même question. J'ai donc fait quelques recherches. À l'époque, la pyramide hiérarchique de la banque était constituée ainsi. À sa base, les simples employés, au-dessus desquels se trouvaient des chefs de service, au-dessus desquels se trouvaient les fondés de pouvoir, au-dessus desquels se trouvaient les sous-directeurs, au-dessus desquels se trouvaient les directeurs et au-dessus d'eux, au sommet, dominant tout ce petit monde, le conseil de la banque, composé de 4 personnes, 2 simples membres, 1 vice-président et 1 président. D'après l'article de la Tribune de Genève, la présidence de la banque Ebesner s'est toujours transmise de père en fils, ce qui signifie que les présidents et vice-présidents du conseil ont toujours été un père et un fils Ebesner, se succédant de génération en génération. Donc logiquement, Macaire Ebesner aurait dû être nommé président à la suite de son père. Logiquement. Sauf que, regardez la photo de l'article consacré à l'enterrement d'Abel Ebesner, sur laquelle on voit les 3 autres membres du conseil de la banque. Macaire Ebesner n'en fait pas partie. Pourquoi ? Je l'ignore. Mais toujours selon ce que j'ai trouvé sur Internet, avant sa mort, Abel Ebesner avait changé les règles. Il avait chargé le conseil d'élire son successeur, lui donnant environ 1 année de délai pour faire son choix. L'annonce du nouveau président devait donc avoir lieu au cours du grand week-end suivant son décès, c'est-à-dire le week-end du meurtre.